Bien, on reprend si vous voulez bien. Avec un invité qui est aujourd'hui Georges Jeanpinot. Georges Jeanpinot, je l'ai invité pour nous parler de Benveniste. C'est pour ça que j'ai un petit peu parlé de Benveniste aujourd'hui pour essayer de faire un petit lien avec son propos. Il est directeur d'études à l'École pratique des hautes études dans la chaire de philologie des textes bouddhiques d'Asie centrale. C'est donc un spécialiste des langues indo-européennes, de leur linguistique et de leur poétique, dans cette tradition représentée par Meillet et Benveniste évoquée tout précédemment. Je ne le connaissais pas. Je l'ai invité parce que je suis tombé sur, en faisant des recherches pour préparer mon cours, sur un article de lui à propos de Benveniste qui me montrait qu'il en savait beaucoup et qui annonçait une publication ultérieure. Je ne sais pas si elle a eu lieu depuis, mais les questions que je me posais à propos de Benveniste et de l'année 1966 ont trait à la constitution de ce volume, Les problèmes de linguistique générale, qui est l'un des tout premiers de la collection Bibliothèque des sciences humaines, dont Pierre Nora nous a parlé il y a quelques semaines, lancé en mars 1966 par Pierre Nora, et dont j'aimerais bien en savoir plus. J'aimerais bien en savoir plus sur l'origine de ce volume. L'une de mes hypothèses, j'ai évoqué il y a un moment dans mon cours les essais de linguistique générale de Jacobson, publié en 1963 aux éditions de Minuit, un livre qui est tout à fait essentiel et fondamental, qui a eu une influence énorme, qui avait été préparé, traduit, préfacé par Nicolas Ruvet, que j'évoquais il y a un moment. Et dans les problèmes de linguistique générale, à la fin de son avant-propos, Benveniste remercie Nicolas Ruvet et Pierre Verstraeten qui ont bien voulu souhaiter la publication du présent recueil, qu'ils soient remerciés ici de m'avoir obligeamment aidé à le constituer. Je retrouve donc Ruvet, je me dis qu'il doit y avoir un lien entre ces deux volumes, celui de Jacobson puis celui de Benveniste. Et je suis aussi curieux un peu de Pierre Verstraeten, puisque Verstraeten était un sartrien. Notamment, c'est lui qui avait attaqué Lévi-Strauss dans les temps modernes à la suite de la pensée sauvage. Vous vous souvenez peut-être que dans la pensée sauvage de Lévi-Strauss, il y a un dernier chapitre très, très, très sévère à l'égard de Sartre. Et c'est Verstraeten qui a répondu dans les temps modernes par un article intitulé « Claude Lévi-Strauss ou la tentation du néant ». Je ne sais pas comment il est passé de ce sartrisme et de cette hostilité à Lévi-Strauss à ce rôle qu'évoque Benveniste dans cet avant-propos. Je ne sais pas si vous répondrez à ces questions, mais voici quelques-unes des questions que je me pose à propos de la constitution de ce volume et de son histoire. Vous avez la parole.
Voilà. Je vous remercie beaucoup. Vous avez presque tout dit, en fait. Parce qu'effectivement, j'avais l'intention d'évoquer la présence de Nicolas Ruvet. Enfin, vous en avez déjà parlé dans votre cours précédemment. Donc, je vous remercie pour cette invitation. Et il est certain que l'année 1966 est une année faste en France pour l'édition d'ouvrages en linguistique, ou plus généralement de sémiotique. Donc, en plus des problèmes de la linguistique générale, dont je vais parler plus loin, on peut citer les titres. Bon, les titres suivants, alors je vais prendre une ampleur, peut-être parfois citer l'année antérieure ou l'année suivante. Bon, Il y a eu une nouvelle, un nouveau tirage des Essais de l'Industrie générale de Romania Thompson, dont on a déjà beaucoup parlé, publié pour la première fois en 1963, un numéro spécial de la revue Diogène en 1965 consacré au problème du langage, bon, qui contient des articles de plusieurs signatures, dont Émile Benveniste et dont André Martinet. Donc, la sémantique structurale de Dreymas chez Larousse, qui repose sur un cours donné à l'Institut Henri Poincaré de la Faculté des Sciences en 1964-1965, théorie de la littérature, présenté et traduit, les textes traduits et présentés par Zeban Todorov, dont il a été largement question, le numéro spécial de la revue Communication, numéro 8, dont il a déjà été question aussi. L'année précédente, 1965, avait vu la publication d'un recueil d'articles d'André Martinet, qui était alors professeur de linguistique à la Sorbonne et aussi directeur d'études à l'École pratique des hautes études, donc pour la linguistique générale et la phonologie, dont intitulé « La linguistique synchronique », donc ouvrage, bon, je reparlerai si j'ai le temps, donc si j'ai le temps de parler de Martinet, donc il s'inscrivait dans la version, disons, dans une version du structuralisme international, dans ce qu'on appelle le fonctionnalisme. Bon, et cette même année, 65, avait vu le premier numéro du périodique La Linguistique, revue internationale de la linguistique générale, dirigée par André Martinet. La linguistique définie dans l'avant-propos de ce premier numéro était définie comme l'étude du langage appuyée sur les faits réels dans le cadre d'une langue ou de plusieurs langues. Et Martinet disait explicitement que cette linguistique ne s'identifiait pas à, je cite, « une branche d'une vaste science de l'homme, selon le point de vue de l'anthropologie américaine ». Le travail en commun, je cite toujours, avec les psychologues, les sociologues, les ethnologues et les médecins, était considéré comme difficile en raison des différences d'école et de la mauvaise compréhension réciproque, à commencer par les ambiguïtés sur les terminologies employées. Donc, cela nous montre immédiatement que le développement qui allait devenir exponentiel, n'est-ce pas, des publications d'introduction à la linguistique, en fait, n'allait pas sans contradiction entre linguistes. Bon, en 1965 est paru également le premier tome de la grammaire structurale du français, nom et pronom, le second tome consacré au verbe paraîtra en 1967 de Jean Dubois, inspiré cette fois-ci de la linguistique distributionnelle américaine, donc disons dans une version atténuée, moins radicale, si vous voulez. Bon. Donc là, c'était une autre version d'une linguistique qui, en définitive, remonte à Ferdinand de Saussure aussi, c'est pas, mais par la médiation, disons, du béhaviorisme américain. L'année 1966 voit la fondation, selon un tout autre point de vue de celui de la revue La Linguistique de Martinet, de la revue trimestrielle Langage, publiée par l'édition Didier Larousse, bon. Les quatre premières livraisons ont des contenus assez divers, donc numéro 1, recherche sémantique dirigée par Todorov, numéro 2, logique et linguistique dirigée par Ducrot, numéro 3, linguistique française, le verbe et la phrase dirigée par Dreymas et Jean Dubois, numéro 4, la grammaire générative dirigée par Nicolas Rouet, donc un assez grand éclectisme. La présentation de la première livraison soulignait à la fois la nécessité d'une connaissance des méthodes de la linguistique moderne, ainsi qu'une compréhension très large du terme « langage », qui est entendu à l'ensemble des systèmes signifiants. C'est-à-dire, il était dit, à la fin, c'est pas de la première page de cette présentation, c'est à cette tâche qui est à la fois d'unification, de confrontation et d'extension correspond le pluriel du titre de notre revue, langage au pluriel, l'horizon, sinon encore l'objet de la linguistique, ce n'est déjà plus tout à fait le langage au singulier, ce sont les langages de l'homme. Bon, cela est assez clair, je pense. Quelques années plus tard, en 1969, le même éditeur créait, selon le même format, une revue qui se voulait complémentaire et qui était dirigée par des grammairiens du français, langue française. Son but explicite était de former les enseignants et les étudiants aux méthodes contemporaines d'investigation, je cite. L'effort de rénovation pédagogique portait autant sur la stylistique que sur l'enseignement du français, en plus de l'application de nouvelles méthodes linguistiques. Plus généralement, le début des années 1960 et toute la décennie a vu l'organisation de tables rondes, de colloques, de dossiers dans divers périodiques qui avaient pour thème le langage, mais bien plus souvent, littérature et linguistique, ou l'inverse, sans compter les revues de littérature qui accordent une place plus ou moins grande à la linguistique ou aux travaux de stylistique inspirés par la linguistique. Au bout de quelques années, l'effort didactique et l'accumulation des informations nouvelles aboutiront à l'édition de dictionnaires et encyclopédies, dont le Dictionnaire encyclopédie des sciences et du langage, par Ducrot et Todorov au Seuil en 1972, et Le langage, sous la direction d'André Martinet, dans la bibliothèque de la Pléiade en 1968. La publication d'introduction à la linguistique, à la stylistique et à des domaines connexes ne cessera pas pendant une quinzaine d'années. Cette production pléthorique contraste fortement avec les décennies antérieures à 1960, où le public intéressé ne disposait que du livre de Joseph Vandriès, d'ailleurs décédé en 1960, il était né en 1875, tout à fait estimable à l'époque de sa conception, très riche d'informations, mais de fait dépassé, sur le plan international, 30 ans plus tard, c'est Le langage, introduction linguistique à l'histoire, qui est paru pour la première fois en 1921, mais qui avait été rédigé, dont la rédaction avait été achevée en 1914. La publication avait été différée du fait de la guerre. C'est le livre, ce livre de Vandriès, auquel se référait Raymond Queneau, encore, ce n'est pas pour les questions linguistiques. C'était le livre de référence, qui d'ailleurs a été réimprimé jusqu'à l'époque où je faisais mes études. Je crois qu'il est peut-être encore, d'ailleurs, il est peut-être encore disponible. Le sous-titre dit assez que ce livre se rattachait évidemment à l'école française de linguistique, à la fois historique et sociale. Ses dimensions prédominaient par rapport aux observations sur la structure synchronique des langues. Bon. Donc, Vandriès, je rappelle, fut professeur à la Sorbonne de 1907 à 1946, sur la chaire de grammaire comparée, converti en chaire de linguistique générale en 1923. Bon, il en a été question, évidemment, comme auteur du fameux traité de grammaire comparée des langues classiques, donc, dans lequel j'ai étudié, n'est-ce pas, et que j'ai appris par cœur, n'est-ce pas, comme il fallait le faire à l'époque. Bien. Alors, en 1966, quand paraît le recueil de ses articles intitulé « Problèmes de l'analyse générale », Benveniste est, sans le savoir, presque au terme de sa carrière scientifique, commencé à l'EPHE, École pratique des hautes études, section des sciences historiques et philologiques, en 1927, et continué en parallèle au Collège de France depuis 1937. De santé déjà fragilisée depuis une attaque cardiaque en 1956, donc là, vous avez la deuxième partie de sa courte biographie, il sera victime en 1969 d'une congestion cérébrale qui lui interdira toute activité d'enseignement et de recherche jusqu'à son décès en 1976. Donc, les années qui suivent immédiatement verront la publication de deux autres ouvrages majeurs, mais qui sont comme la continuation du point d'orgue marqué par ce livre de 1966. Le vocabulaire des institutions indo-européennes, paru en deux tomes chez Minuit en 1969, je vous rappelle que ce livre majeur repose sur la transcription de cours du Collège de France, qui avait été donné dans les années antérieures, et donc et c'est Pierre Bourdieu, n'est-ce pas, qui a accueilli ces deux volumes dans la collection Arguments, et disons qui a, disons, en grande partie pris l'initiative, n'est-ce pas, et de pousser, disons, Benveniste à remanier, n'est-ce pas, la transcription de ces cours. Un second volume des problèmes de l'analyse générale. Donc, qui fera donc du premier un volume 1, paraîtra en 1972 chez Gallimard, dans la même collection, et ce volume comprend 20 articles répartis sur le même plan général. Donc, oui, je vous donne un peu plus loin, parce que voilà, donc, si vous voulez, le volume de 1966 comprend 28 articles, et qui sont classés en 6 grands chapitres, transformation de la linguistique, la communication, structure et analyse, fonction syntaxique, et ensuite l'homme dans la langue, et l'éthique et culture. Donc on retrouve pratiquement les mêmes subdivisions, n'est-ce pas, dans Problème de la linguistique générale 2, donc en 1974, excusez-moi, donc c'est transformation de la linguistique, la communication, structure et analyse, fonction syntaxique, l'homme dans la langue, en plus ce qui est une certaine curiosité, il y a deux entretiens, donc l'un avec Pierre Detz, paru dans les Lettres françaises, structuralisme linguistique, et le second, un entretien avec Guy Dumur dans le Nouvel Observateur, toujours dans la même année, 1968, dont cela confirme que Benveniste, entre 1966 et 1968, était parvenu à la célébrité. Bon. Alors, ce volume de 1974 a été conçu comme un hommage pour le 70e anniversaire du maître, donc en 1972, et dans le contexte de son incapacité irréversible, c'est-à-dire du fait de l'hémiplégie et de l'aphasie. Donc, les circonstances d'une fin de vie particulièrement douloureuse, et même, je dirais, misérable, ont fait deux ouvrages, Les problèmes de la vie générale et le vocabulaire, son testament intellectuel. La présente communication n'a pas pour objet de retracer la vie et l'œuvre d'Émile Benveniste. Il est cependant utile de rappeler quelques faits pour mettre en perspective le contenu des problèmes de la vie générale. Les origines familiales de Benveniste, donc un milieu juif donc séfarade, ou Mizrahi en général, donc à Alep, en Syrie, le place aux antipodes de celles des savants enracinés dans l'Europe et dont pourtant il a été le plus proche. Par contraste avec Ferdinand de Saussure, issu d'une lignée prestigieuse de l'aristocratie protestante, et avec Antoine Meillet, issu de la bonne bourgeoisie du cœur de la France rurale, Benveniste appartient au milieu levantin des fous de la République, imprégné des valeurs de laïcité et d'humanisme universel. Il n'est pas passé par le cursus de ceux qui ont été ses condisciples, les grands lycées parisiens, les premières années de l'université parisienne et, pour beaucoup d'entre eux, l'école normale supérieure. Il a commencé ses études à l'Alliance israélite universelle et dont il était, n'est-ce pas, élève à l'école rabbinique de France de la rue Vauquelin. Donc, c'est la rencontre avec l'indianiste Sylvain Lévy, qui donnait des conférences dans cette institution et qui allait devenir, peu après, président de l'Alliance israélite universelle, qui, donc, a rencontré ce jeune et précoce étudiant et qui l'a détourné d'une carrière promise de rabbin éclairé, selon la conception de l'Alliance israélite universelle. Et donc, c'est par l'entremise de l'indianiste Sylvain Lévy que Benveniste s'est inscrit à l'école pratique des hautes études, donc à 16 ans. Et il a suivi à partir de là un cursus, je dirais, para-universitaire, puisque l'accès au diplôme était très libéral à l'école pratique d'autres études, puisqu'à l'époque, cet établissement ne donnait pas une formation doctorale en sens strict. Au sens strict, elle délivrait un diplôme des hautes études, mais qui permettait après, disons, de faire une carrière. Et pour commencer, à l'école pratique des hautes études. Donc, le milieu nourricier de Benveniste, il faut garder ça à l'esprit, c'est le milieu des orientalistes de l'école pratique des hautes études, autour de Sylvain Lévy, de Paul Pelliot, et auquel était rattaché aussi le grand linguiste Antoine Meillet. Donc, dans ces mêmes années, on en a le témoignage par les registres, n'est-ce pas, d'inscription des étudiants à l'école pratique des hautes études, donc en 1918-1919, donc Benveniste a rencontré Meillet. Et il est venu, dans le cercle des élèves de Meillet, occuper la place d'un mort, Robert Gautiot, qui était décédé en 1916 à la suite d'une blessure de guerre et qui était l'alter ego et l'héritier présomptif de Meillet à l'école pratique des hautes études et probablement aussi au Collège de France. Benveniste a, dès que ses capacités ont été confirmées, ce qui n'a pas pris beaucoup de temps, il a été recruté pour terminer les travaux laissés inachevés par Gautiot, travaux, disons, qui portaient sur le sogdien, dont une langue moyenne iranienne qui avait été déchiffrée principalement par Gautiot à partir des manuscrits rapportés d'Asie centrale, donc à l'époque appelé Turkestan chinois, le Xinjiang actuel, donc par la mission Pelliot et aussi par les expéditions parallèles qui avaient eu lieu dans d'autres pays et dont ces manuscrits avaient été rapportés dans différentes bibliothèques et musées d'Europe. Donc, voyez, donc la première publication majeure de Bhavani, ça sera l'essai de Grammaire Sogdienne, et donc l'achèvement d'un ouvrage commencé par Robert Lothiaux, et je n'ai pas mentionné aussi d'autres travaux qui ont été faits dans cette période. Donc, parallèlement, le second milieu intellectuel de Bhaveniste était constitué par les passionnés de littérature et de philosophie dans leur forme novatrice et avant-gardiste. Pendant une courte période, il a appartenu au groupe Philosophie, qui était un groupe communisant, voire communiste, comportait Henri Lefebvre, Pierre Morange, Georges Politzer, groupe d'étudiants donc de la Sorbonne et de l'École normale supérieure. Il connaissait Sylvia Beach, la propriétaire de la librairie Shakespeare and Company. Il connaissait fort bien, enfin, cela, on s'est poursuivi dans les années suivantes, cette curiosité et cette passion même pour la littérature. Il connaissait fort bien les littératures anglaises, anglophones en général. Il parlait anglais d'une façon remarquable, au témoignage de ceux qui ont entendu ses conférences à l'étranger. Il fréquentait aussi la Maison des Amis des Livres d'Adrienne Monnier, rue de l'Odéon. Et donc, j'ai retrouvé la trace d'un personnage féminin contemporain, n'est-ce pas, donc, qui est une sorte de double d'Émile Bhaveniste, parce qu'elle aussi fait le lien entre ce milieu intellectuel, disons, d'avant-garde, littéraire, et le milieu des orientalistes de l'EPHE, auditeur de Sylvain Lévy. Donc c'est Raymond de Linossier, bon, donc si cela intéresse certains, je pourrais leur donner des détails, donc une personne qui était avocate, une jeune avocate à la Cour d'appel de Paris, mais qui était aussi attachée de recherche au musée Guimet, et qui était auditeur à l'EPHE en même temps qu'Émile Bhaveniste. Bhaveniste, donc, est un pur produit de l'école pratique des hautes études, et de sa section des sciences historiques et philologiques. Cet établissement, fondé en 1868, était et reste encore le seul à fournir un enseignement de grammaire comparée des langues indo-européennes. En effet, à la différence de l'Allemagne et des pays de langue allemande, où il existait depuis le XIXe siècle des chaires de linguistique indo-européenne, cette discipline n'est jamais entrée en tant que telle à l'université en France. Bon, je passe sur cet aspect historique, j'aurais beaucoup à dire là-dessus. Mais cela est compensé, pour être objectif, par le fait que les chaires françaises de latin et de grec comportaient, d'ailleurs sous l'influence de la grammaire comparée française, une forte composante linguistique et philologique. Bon. Et donc, les professeurs, beaucoup de professeurs de latin et de grec dans les universités faisaient aussi un enseignement, disons, de linguistique indo-européenne. Mais il n'y avait pas, en tant que tel, de chaire de linguistique indo-européenne. Donc, cela se faisait simplement à l'école pratique des hautes études, et bien sûr au Collège de France. Je vais en dire un mot ensuite. Alors, je ne vais pas ici, parce que je crois que je n'ai pas le temps, dire en quoi consiste la grammaire comparée des langues indo-européennes, mais le point à retenir dans notre perspective, c'est que la grammaire comparée moderne, la grammaire comparée en tant que telle, elle est née en 1816, c'est la date traditionnelle, bon, pas avec la grammaire de Franz Bopp. Mais la grammaire comparée moderne, elle est née en 1876. Et elle est fondée sur la notion du caractère régulier et sans exception des lois phonétiques qui modifient de façon inconsciente et aveugle donc les sons d'une langue donnée. Au moyen de ces lois, on peut expliquer les correspondances entre les langues. En étendant ces méthodes, on peut reconstruire des morphèmes, des déclinaisons, conjugaisons, et bien sûr des mots complets qu'il est possible ou non d'analyser. Donc, les formes de la langue reconstruite évoluent avec les progrès de la recherche et avec l'interprétation de nouveaux documents. La notion de la langue comme système formel est donc solidaire de la théorie néo-grammairienne fondée sur la régularité des lois phonétiques. Cependant, une vision traditionnelle de la grammaire comparée a consisté à ne considérer une forme d'une langue donnée à un moment donné que dans son histoire individuelle, dans une perspective strictement évolutionniste. Bon, il va de soi que la description linguistique est solidaire de la philologie, qui consiste à établir l'authenticité des formes contenues dans les textes. Donc, la linguistique indo-européenne comprend plusieurs directions et, avec la même méthode comparative, on peut reconstruire la phraséologie et l'emploi esthétique des éléments linguistiques, un ensemble de faits qui relèvent de la poétique indo-européenne. Au-delà, mais là on sort de la linguistique, il y a le domaine, bien sûr, de la mythologie indo-européenne, qui se base sur la comparaison, cette fois-ci, de textes, pas, donc dans diverses langues indo-européennes. Bon. Et donc, les différences de précision dans les résultats tiennent au fait que la plupart des langues n'ont pas été écrites jusqu'à une époque récente. C'est pas bien. Alors, on dispose, n'est-ce pas, de langues avec une suite de documents sur plusieurs millénaires. Pour revenir au domaine français, cette discipline allemande, d'origine, ou d'Europe centrale plus généralement, a été introduite en tant que discipline novatrice par Michel Bréal, 1832-1915, premier professeur de grammaire comparée au Collège de France, et qui supervisait aussi l'enseignement de cette discipline à l'École pratique des hautes études. C'est Bréal qui a eu le génie, on peut dire, de recruter dans cet établissement Ferdinand de Saussure, qui s'était formé en Allemagne, essentiellement à Leipzig, et qui donc a enseigné à l'EPHE de 1881 à 1891. Donc, et comme Antoine Compagnon l'a rappelé, donc Ferdinand de Saussure, à l'École pratique des hautes études, a été remplacé par Antoine Meillet, après le départ de Ferdinand de Saussure à Genève, puis Meillet, peu d'années après, a succédé à Michel Bréal au Collège de France, et ensuite, comme il est indiqué ici, oui, c'est-à-dire en 1937, Benveniste devient professeur au Collège de France, donc à la suite d'Antoine Meillet, après d'ailleurs avoir assuré sa suppléance. Auparavant, il avait été... auparavant, Antoine Meillet lui avait laissé sa chaire, en fait, puisque Meillet pouvait encore enseigner, en 1927, à l'École pratique des hautes études, une chaire, donc, enfin un double enseignement, enseignement de la grammaire comparée et de l'iranien. Donc, ce qui est particulièrement impressionnant et je crois unique, c'est que, au cours d'un siècle, il n'y a eu que trois titulaires de la chaire de grammaire comparée au Collège de France, et sans interruption. Dans le domaine de la linguistique, eh bien, il n'y a plus eu de chaire de grammaire comparée au Collège de France, pas depuis Benveniste. Il y avait sans doute une sorte de tabou, ou disons de crainte respectueuse, n'est-ce pas, devant la chaire laissée vacante, donc elle a peut-être sans doute à la suite de la fin dramatique, on peut dire, de Benveniste, et aussi en l'absence, si vous voulez, de savants de la même stature. Et donc, après une interruption, donc là, on a créé une chaire de théorie linguistique pour Claude Agege, donc, et qui l'a occupé de 1988 à 2006. Donc là, on assiste à un très net déplacement, n'est-ce pas, d'une époque où la grammaire comparée, depuis la fin du XIXe siècle, était au centre de la linguistique. En fait, linguistique historique, qui signifie en fait linguistique indo-européenne, et linguistique générale étaient pratiquement identifiés, donc à une période autre, qui est la nôtre, où la linguistique indo-européenne, de fait, n'est plus au centre de la recherche linguistique. Bon, il est courant qu'un indo-européaniste se spécialise dans un groupe de langues parmi l'ensemble vaste des langues indo-européennes, qui sont au nombre d'une douzaine, au stade le plus ancien, bien sûr. Meillet, qui avait une vision d'organisateur, a réussi à répartir ses langues entre ses élèves les plus doués. Comme on l'a vu, l'iranien a échoué à Benveniste. C'est pas comme le grec a échoué à Chantraine, le sanskrit à Renoux, le celtique, etc., à d'autres. C'est pas, les langues étaient réparties entre élèves. Et donc, depuis donc, le sogdien, c'est pas, et donc Meillet, tout au long de sa carrière et jusqu'à la fin de sa vie, Benveniste, je veux dire, jusqu'à la fin de sa vie, a publié des articles et des livres sur les langues iraniennes à leurs divers stades, depuis l'avestique et le vieux perse, le stade le plus ancien, et donc jusqu'au persan moderne. Donc, son dernier livre dans ce domaine, n'est-ce pas, est paru la même année que Les problèmes de la linguistique générale, titres et noms propres en iranien ancien. Bon. Et on progresse dans l'incompréhension de l'histoire d'une langue par la connaissance des langues qui lui sont apparentées. Donc les travaux sur le sogdien ont introduit Benveniste à la connaissance de l'ensemble du domaine iranien. Par là, il a participé à l'immense travail, n'est-ce pas, de mise en valeur des documents qui avaient été découverts, n'est-ce pas, en Asie centrale. Bon, je rappelle, si vous voulez, que la grammaire comparée des langues indo-européennes progresse en grande partie par la connaissance de nouveaux documents. Et il y a eu, disons, à côté de ces nouvelles langues iraniennes qui sont apparues au début du siècle, outre le sogdien, le khotanais, le moyen perse et le parthe, à quoi se sont ajoutés plus tard le corasmien et le bactrien, il y a eu le hittite, déchiffré en 1915, le totarien, ou plutôt les deux langues totariennes en 1908, et puis le mycénien, sur le grec mycénien en 1952. Donc à chaque fois, cela amène une remise en cause des résultats. Et, par conséquent, la tâche des comparatifs jusqu'à aujourd'hui consiste essentiellement, en plus de la description de ces nouvelles langues apparues depuis le début du XXe siècle, à réviser les nouvelles conceptions de l'Inde, à réviser la conception de l'Inde européen que l'on croyait définitivement acquise à la fin du XIXe siècle. Et Benveniste, ils ont joué un rôle majeur dans ce programme de recherche. Donc ça, comme vous savez sans doute, il a publié 18 livres, presque 300 articles et 300 comptes rendus. Donc son premier article date de 1922, donc c'est une œuvre considérable, mais il faut souligner que c'est une vie laborieuse, mais c'est aussi une vie marquée par les tragédies, à la fois collectives et personnelles. Donc de cela, Benveniste n'a jamais parlé ouvertement. Le pillage de son appartement par les Allemands en 1940 et la perte de sa bibliothèque et de sa documentation accumulée pendant les années antérieures ont entraîné des efforts considérables pour la reconstituer après la guerre. Il n'y est jamais complètement parvenu. Et cela explique l'absence du deuxième tome annoncé de sa thèse, donc les origines de la formation en indo-européen, publié en 1935. Cette perte irréparable fait l'objet simplement d'une brève mention dans la note de l'avant-propos de l'ouvrage qui tient lieu en quelque sorte de ce deuxième tome prévu, Nom d'agent et nom d'action en indo-européen, dont le publié en 1948, dont je cite Benveniste, dans l'intervalle, virgule, il y a eu pour l'auteur d'autres publications, virgule, l'interruption de la guerre, virgule, la perte de tous ses travaux manuscrits, virgule, et l'obligation de reconstituer la documentation entière du présent ouvrage. Donc, voilà, ce que je trouve admirable personnellement, c'est ces termes, l'intervalle. Et intervalle qui a été tragique, puisque Benveniste a été révoqué du Collège de France du fait de l'application du statut des Juifs du gouvernement de Vichy. Il a perdu son frère, donc déporté à Auschwitz, et il a dû se cacher en France, puis s'exiler en Suisse. Et la lecture de sa bibliographie montre qu'il n'a rien publié de 1941 à 1944 inclus. Donc, mais disons, on n'est pas à l'époque de l'ego, on n'était pas à l'époque de l'ego histoire. C'est-à-dire que Benveniste ne s'est jamais confié, n'est-ce pas, sur ses événements, même pas dans les entretiens, n'est-ce pas, auxquels il a consenti à la fin de sa vie. Donc ce n'est pas le lieu non plus, je n'ai pas le temps, de dresser un bilan de l'œuvre indo-européaniste de Benveniste. Il importe seulement de rappeler qu'elle participe de l'association féconde entre la philologie historique et comparative, n'est-ce pas, et la linguistique structurale, dont il est un des plus illustres représentants avec son contemporain, le Polonais Jerzy Kurilowicz, donc 1895-1978, lui aussi élève de Beyer. Donc cette méthode, donc cette combinaison, n'est-ce pas, de la philologie et de la linguistique, je dirais, systémique, avait permis à Ferdinand de Saussure de prévoir l'existence de phonèmes consonantiques disparus derrière les voyelles brèves et longues qui en résultaient, et ces phonèmes avaient plus tard été identifiés par Kurilowicz en 1927-1928 avec des consonnes effectivement attestées en hittite. Sur la base de ces découvertes, il fallait réviser la description des morphèmes de base des noms et des verbes, et donc un des aboutissements, n'est-ce pas, de ce travail, ça a été justement la thèse de Benveniste, Origine de la formation en indo-européen de 1935. Et Benveniste a réussi à réduire à une cellule morphologique unique deux consonnes différentes autour d'une voyelle alternante, complétée par trois sous-types quand s'y ajoute une consonne, la multiplicité externe de la forme des racines. Par conséquent, une racine ne se définira plus seulement par sa ressemblance à d'autres racines, ou de façon négative, comme l'élément invariant d'une famille de mots, mais par des caractères structuraux. Donc, la langue reconstruite est considérée comme un système Au même titre que n'importe quelle langue vivante, elle possède une histoire dont les phases peuvent être reconstruites de manière interne. Donc, Benveniste a appliqué la méthode structurale à un très grand nombre de données selon la recherche constante de principes d'organisation, je le cite, voire de symétrie, qui reposent sur des oppositions de forme et de sens. Un exemple particulièrement clair est donné par le livre de 1948, où Benveniste donne la raison profonde de la diversité d'un ensemble de suffixes nominaux, de noms d'agents et noms d'actions. Dans ce livre de 1948, institue des comparatifs, des superlatifs, des ordinaux et de certains adjectifs verbaux. Donc, bien que les conclusions puissent être discutées et que les oppositions en question doivent être, plus de 60 ans après, conçues en partie autrement, le livre est exemplaire et, je cite Benveniste, « Nous aboutissons par une analyse synchronique à dégager pour chaque catégorie un jeu de valeurs contrastées où ressortent deux notions distinctes de l'agent et de l'action, et à son tour, ce dédoublement révèle une symétrie profonde entre les deux catégories. Au-delà des conclusions particulières où nous amène chacun de ces problèmes, notre démonstration vérifiera un principe simple. Quand deux formations vivantes fonctionnent en concurrence, elles ne sauraient avoir la même valeur, et corrélativement, des fonctions différentes dévolues à une même forme doivent avoir une base commune. Il incombe aux linguistes de retrouver ces valeurs, généralement peu apparentes et souvent très cachées. Donc voilà donc un programme, n'est-ce pas, que Benveniste a suivi toute sa vie. Et Benveniste n'a pas été le fondateur d'une école linguistique, à la différence de son maître Meillet, et à la différence d'autres linguistes théoriciens qui appartiennent à peu près à la même génération, dont j'ai déjà parlé d'André Martinet, mais je pourrais mentionner, pour me limiter à la France, donc Lucien Ténière, qui a longtemps préparé et publié dans les années 50, avec beaucoup de retard, donc une syntaxe structurale, et Gustave Guillaume. Cela est dû en partie au statut, donc cet isolement de Benveniste est dû en partie au statut de professeur au Collège de France, qui ne confère pas de grade universitaire, mais sans doute aussi à des raisons personnelles. Il est certain qu'il n'a pas refusé d'encourager les jeunes chercheurs. J'ai le témoignage, n'est-ce pas, de celui qu'on peut considérer comme son fils spirituel, n'est-ce pas, qui est le professeur Calvert Watkins, de l'université Harvard, qui donc a séjourné à Paris et qui a dédié son livre majeur à la fois donc à quatre savants, dont trois sont des noms familiers pour vous, donc Benveniste, Jacobson et Kourilovitch. Dont trois représentants, si vous voulez, du structuralisme, si l'on veut, dans ce sens strictement linguistique. Calvert Watkins dit qu'il a été accueilli très libéralement par Benveniste. Mais ça n'a peut-être pas été le cas de tout le monde. Je pense aussi que Benveniste était engagé depuis longtemps dans une voie qu'il était seul à pouvoir suivre. Il faisait preuve d'exigence vis-à-vis des autres linguistes à la mesure de son exigence envers lui-même. Il est indéniable que la pureté de diamant de plusieurs de ses démonstrations et une certaine élévation du style ne sont pas de nature à ouvrir le dialogue avec le premier venu. On peut donc s'interroger sur les raisons qui ont fait de Benveniste, à la fin de sa carrière, le grand linguiste pour le public cultivé et au-delà du cercle des linguistes professionnels. Il serait réducteur de se borner à dire que Benveniste donnait une caution érudite par sa maîtrise d'un grand nombre de langues, une maîtrise érudite et sa reconnaissance internationale dès les années 30, une caution érudite incontestable au foisonnement de la référence linguistique dans les sciences humaines. Son attitude ne peut pas non plus se réduire à la complaisance d'un savant âgé pour de jeunes littérateurs enthousiastes. Je rappelle en passant qu'il apparaît sous le nom de Fernand Bincérade dans le roman attelé de Julia Kristeva, « Les samouraïs », Fayard, 1990. De fait, mais je ne vais pas avoir le temps de le démontrer, Benveniste était pleinement acteur des échanges entre la linguistique et les autres sciences humaines, comme le montrent ses contributions à des périodiques de sociologie, de psychologie, d'anthropologie. Et cela a commencé, n'est-ce pas, avant l'année 1966 et dès les années 50, comme le montre le contenu des problèmes de la vie générale, puisque c'est les différents chapitres sont constitués d'articles qui ont été publiés pour le plus ancien en 1939, donc Antoine Compagnon l'a mentionné, et sur donc qui est une réinterprétation de la pensée de Saussure, et le plus récent est de 1963, et donc la plupart, disons, s'étagent dans les années 1950-1960. On doit seulement noter, alors donc Benveniste a été invité, n'est-ce pas, à toutes sortes de tables rondes où il donnait le point de vue du linguiste. Mais cela prouve aussi sa curiosité, n'est-ce pas, à la fois pour la psychanalyse, pour l'anthropologie, et ça va bien au-delà d'une simple curiosité. On doit simplement noter que Benveniste ne pratiquait jamais l'application des méthodes linguistiques sans précaution, je dirais, à tout et n'importe quoi. Sa problématique restait constamment celle d'un linguiste ou, le cas échéant, d'un historien de la linguistique. Alors, il y a, disons, un certain décalage, par conséquent, si vous voulez, entre Benveniste et donc un décalage certain, n'est-ce pas, avec la linguistique française, n'est-ce pas, de son temps. Et j'ai déjà parlé d'André Martinet, qui était l'autre linguiste majeur, n'est-ce pas, de l'époque. Et Martinet a joué un rôle historique crucial, qu'il ne faut pas négliger, par un petit manuel, excellent à l'époque, « Éléments de la linguistique générale », donc publié en 1961, et réimprimé constamment, et qui a été un énorme succès donc, pour l'éditeur, Armand Collin. Alors, outre son œuvre propre, bien sûr, parce que Martinet, n'est-ce pas, est le véritable introducteur de la phonologie pragoise en France. Et donc, de cela, il a déduit une doctrine, on peut dire, qui est le fonctionnalisme, qui, disons, n'est efficace, je dirais, qu'à ce niveau de l'analyse linguistique, n'est-ce pas, les phonèmes et éventuellement les morphèmes. Bon, mais qui s'est révélé, disons, assez limité quand il s'agissait de décrire la syntaxe et, disons, le sens. Donc, mais indépendamment, disons, des mérites de du fonctionnalisme en tant que tel, il est certain, si vous voulez, que Martinet donc, avait introduit cela donc, dès les années 50. En fait, en réalité, Martinet a été élu sur une chaire de phonologie, la première créée en France, à l'École pratique des hautes études en 1938. Bon, donc, la phonologie pragoise, je rappelle en deux mots de quoi il s'agit. Il s'agit, en fait, si vous voulez, d'une application, de la théorie saussurienne, si vous voulez, donc au domaine strictement sonore, si vous voulez, du langage. Mais parallèlement à Ferdinand Saussure, à la même époque, donc des théoriciens polonais ou russes d'ascendance polonaise, Baudouin de Courtenay et Kruszewski, donc étaient arrivés à la notion de phonème, donc c'est-à-dire comme unité distinctive, distincte du son. Bon, donc cela, correspondait à la distinction, à la dichotomie opérée par Saussure entre langue et parole. Donc, de ces prémices, c'est Troubetskoy, le prince Troubetskoy, à partir de ces prémices, qui a fondé la phonologie, et cela a été établi pour le grand public par le Cercle linguistique de Prague, dont première constitution en 1926 et premier congrès en 1928. Donc, Benveniste avait tout à fait raison de dire dans son entretien avec Pierre Detz, en 1968, le structuralisme, il a 40 ans. Oui, donc, effectivement. Et d'autant plus, si vous voulez, que Meillet, bon, qui n'aimait pas la théorie, n'aimait pas ce genre de théorie, disons. Meillet avait tendance, surtout, évidemment, à la fin de sa vie, il avait tendance à conseiller aux gens, accumuler les faits, et puis faites des atlas linguistiques. Bon. Donc c'était un programme, évidemment, un peu, bon, qui n'était pas forcément attractif pour tout le monde. Bon, alors, ça n'enlève rien au génie de Meillet, mais Meillet, qui avait la vision des choses, avait donné son aval à la participation de Benveniste aux réunions du Cercle linguistique de Prague, et donc Benveniste y a participé trois fois, et d'ailleurs il y a un de ses articles publié dans les années 30, montre tout à fait qu'un certain nombre de linguistes français étaient informés, mais je dirais les linguistes de pointe. Cela n'avait pas, juste à Martinet, de conséquences dans l'enseignement de la linguistique à l'université. Bon, donc je ne peux pas m'étendre là-dessus. si vous voulez. Donc là, j'ai parlé de l'échec relatif, disons, enfin en tout cas, du fonctionnalisme, mais donc cela a suscité par réaction le recours à d'autres théories, empruntées principalement au distributionnalisme américain et à la grammaire générative également américaine. Et donc en 1960, un groupe de linguistes, Chevalier, Dubois, Mitterrand, décidèrent de créer un organisme de recherche qui, dans leur esprit, devait favoriser un renouveau de la linguistique française, la Société d'études de la langue française. Bon. Donc, maintenant, je reviens au livre lui-même. Le livre est le premier volume de la Bibliothèque des sciences humaines dirigée par Pierre Nora, qui avait été recruté en 1966 pour renouveler le secteur de la non-fiction chez Gallimard, et notamment le secteur des idées, représenté dans la Bibliothèque des idées fondée en 1927. Bon. Mais dont le concept était trop vieilli pour accueillir des travaux divers des sciences humaines en plein développement. Cela dit, il est probable et même certain que le projet de réunir ces articles de Bavnich chez Gallimard avait pris quelques forme quelque temps auparavant. Le livre est très soigneusement composé, en 6 parties, comme je l'ai dit, et il comporte une introduction qui n'est pas banale. Donc, ce n'est donc pas le fruit de l'improvisation. La proximité chronologique de la rédaction de plusieurs articles fait même penser qu'ils ont été conçus comme complémentaires pour être réunis un jour dans un volume. La lecture de la correspondance de Bavnich dans ses archives confirme ce fait, et notamment qu'il a rédigé certains articles de la linguistique générale qui trouveront place dans le volume de 1966 et dans le deuxième volume de 1974 pour répondre aux sollicitations de collègues linguistes et non-linguistes. À la fin de son avant-propos au volume de 1966, comme l'a noté Antoine Compagnon, Bavnich remercie 2 personnes qui ont souhaité la publication du recueil et qui l'ont aidé à la constituer, Pierre Verstraeten et Nicolas Rouet. Le premier est un philosophe qui se rattache à la mouvance sartrienne et qui, de fait, dirigeait avec Jean-Paul Sartre la bibliothèque de philosophie chez Gallimard, fondée par celui-ci et Maurice Merleau-Ponty en 1950. Donc, je n'exclus pas que ce livre était conçu à l'origine pour paraître dans la bibliothèque de philosophie, puisque la bibliothèque des sciences humaines n'existait pas. Et donc, quand ce volume était prêt en 1965, et quand Pierre Nora est arrivé, il a trouvé ce volume avec d'autres, et évidemment, ce volume a été le premier, d'ailleurs publié, dans la Bibliothèque des sciences humaines. Donc, on a déjà parlé, n'est-ce pas, du succès inattendu rencontré par ce volume. Mais en fait, à mon avis, ce succès n'est pas tout à fait inattendu, enfin, ou du moins rétrospectivement. Maintenant, Nicolas Rouet. Nicolas Rouet était un linguiste et un poéticien aspirant du Front National Belge de Recherche Scientifique, disciple de Roman Jakobson au Massachusetts Institute of Technology, donc à Cambridge, Massachusetts, et il avait traduit et présenté les essais de la Linguistique Générale, donc paru dans la collection Arguments chez Minuit en 1963, un livre bon, qui, à mon avis, reste fondamental, qui est un peu le bréviaire de la linguistique moderne. Et Nicolas Rouet ajoutait aux activités mentionnées ci-dessus celles de musicologue. Il a joué un rôle considérable de passeur entre les États-Unis et la France sans négliger son œuvre propre. Peu de temps après, il donnera pour le public français une présentation de la grammaire générative et transformationnelle de Noam Chomsky, aussi du MIT, donc Introduction à la grammaire générative, paru chez Plon en 1967. Alors, plusieurs facteurs faisaient en quelque sorte de Bavnich le Jakobson français, en plus de l'amitié qui remontait, l'amitié entre Bavnich et Jakobson, qui remontait aux réunions du Cercle de la Linguistique de Prague dans les années 30. Premièrement, la passion pour la poésie, notamment pour la poésie d'avant-garde et contemporaine. Deuxièmement, l'intérêt pour l'anthropologie et l'amitié commune avec Claude Lévi-Strauss, que Roman Jakobson avait connu à New York pendant la guerre, dans le cadre de l'École pratique libre des études, et c'est cette rencontre qui est en fait à l'origine de l'anthropologie structurelle. Donc, troisièmement, l'intérêt pour la typologie des langues et l'ampleur de l'érudition, qui font de Jakobson et de Bavnich de rares exemples de linguistes universels. On peut dire, si vous voulez, que pour les Français, bon, pour mes maîtres et pour moi, pour les gens de ma génération encore, Bavnich est le maître, si vous voulez, il est le linguiste. Et je dirais que pour les Américains, jusqu'à nos jours, Jakobson est le linguiste. Il incarne le linguiste et la linguistique. Quatrièmement, tous deux, de manière différente, sont des penseurs de la communication et de la signification et de l'interaction entre locuteur et allocuteur. Et cinquièmement, le cercle rationnel est même plus dense, puisqu'il comprend le philosophe Jean Val, que Bavnich a côtoyé comme lecteur de Hegel, et qui s'était réfugié aux États-Unis de 1941 à 1945, où il fonda l'École libre des hautes études. On peut ajouter que désormais, grâce donc à la publication de manuscrits qui étaient restés longtemps inédits, on sait qu'il y a un bavainiste poéticien, n'est-ce pas, qui a travaillé sur Baudelaire. Et j'avais aussi personnellement, n'est-ce pas, disons, suspecté, n'est-ce pas, l'existence de ce bavainiste poéticien à travers la lecture de certains articles, bon, qui n'appartiennent pas au cœur de son œuvre linguistique, en particulier l'article sur l'eau virile, paru dans un livre illustré publié par Aimé Mad en 1945. Cependant, je ne négligerai pas les différences importantes qui tiennent à de multiples raisons. L'aspect slavisant, et même à certains égards panslaviste de Jacobson, qui est de façon essentielle un historien de la langue russe, est évidemment étranger à Benveniste, qui n'a pas cet ancrage, en quelque sorte territorial, dans une famille de langues. Malgré la parenté des langues iraniennes, on ne peut pas dire qu'elles constituaient pour Benveniste une sorte de patrie linguistique, même de substitution. Deux autres traits les distinguent. Alors que Jacobson, dans la lignée de Troubetskoy et des ancêtres du structuralisme, a consacré une grande partie de son activité à la phonologie et aux méthodes de la description phonologique, ces dimensions de la langue n'a pas retenu spécialement l'attention de Benveniste dans ses travaux de l'Institut général. Bon. Les problèmes de versification, c'est pas, de métrique verbale qui passionnaient Jacobson sont totalement ignorés de Benveniste. Inversement, la prégnance des questions de sémantique, de lexique et d'étymologie est beaucoup plus marquée chez Benveniste que chez Jacobson. Ajoutons que ce dernier était un historien de plusieurs langues, mais n'était en rien un indo-européaniste. Donc là, il y a un marqueur quand même de rupture, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que Benveniste est resté toujours indo-européaniste. Quant à leur intérêt commun pour l'ethnologie et pour l'anthropologie et leur compagnonnage avec Lévi-Strauss, je rappelle, si vous voulez, bon, c'est bien connu, mais que Benveniste est un des cofondateurs de la revue L'Homme, avec Claude Lévi-Strauss et Pierre Gouault en 1961. Il a publié plusieurs articles dans cette revue du laboratoire d'anthropologie du Collège de France, de l'École pratique d'autres études, puis du Collège de France. Donc, leur compagnonnage avec Lévi-Strauss a des médiations différentes. Du côté de Benveniste, il vient de la pensée de Marcel Mauss, en fait. Pensée de Marcel Mauss qui a imprégné toute l'école de la linguistique française, dirigée par Meillet, et qui est une référence constante pour les analyses de Benveniste sur le vocabulaire social, économique et institutionnel indo-européen, et dont on a, par exemple, un exemple fameux dans ce volume, par exemple, « Problèmes sémantiques de la reconstruction », paru en 1954, et « Dons et échanges dans le vocabulaire indo-européen », publié dans l'année sociologique. Bon, mais je pourrais en citer beaucoup d'autres. Tout le vocabulaire des institutions indo-européennes, n'est-ce pas, est plein de ces références, donc, la notion de fait social total, bon, inaugurée par Marcel Mauss. Bon. Mais évidemment, il est très difficile de comparer ou de dresser un parallèle entre géants. Il y avait aussi d'autres raisons qui donnaient à Benveniste un rôle particulier en France dans les années 1950-1960. En effet, Benveniste, bien qu'il fût objectivement l'héritier de Meillet, ne se rattachait à aucune école linguistique de cette époque. Donc ça, je n'insiste pas, et je voudrais maintenant en venir, si vous voulez, à donc un point majeur, si vous voulez, par lequel Benveniste transcende les structuralistes, puisque finalement, j'ai essayé de vous montrer qu'il y avait plusieurs, au moins trois structuralistes. Il y a celui de Ferdinand de Saussure, il y a celui de Martinet, si vous voulez, et puis il y a celui qui est arrivé en France, mais par l'intermédiaire de l'école américaine. Vous voyez, il faut savoir, bon, c'est d'ailleurs d'une certaine façon tout à fait scandaleux, que les ouvrages majeurs de la linguistique américaine, les ouvrages de Sapir, Edward Sapir et de Leonard Bloomfield, n'ont été traduits que dans les années 60 et 70. Donc, il y avait quand même une ignorance de la France pour des travaux majeurs, n'est-ce pas, qui étaient utilisés comme manuels dans des pays étrangers. Bon. Alors, je rappelle aussi que Benveniste a tout à fait, et il ne faut pas s'imaginer que Benveniste a été manipulé ou piégé, ce n'est pas du tout le genre du personnage. Par exemple, il a joué un rôle déterminant dans la création de l'Association internationale de sémiotique, dans la création de la revue Sémiotica, à laquelle il a donné des articles. On pourrait croire, n'est-ce pas, qu'il y a deux Benvenistes. Si on constate, n'est-ce pas, regardez le bas de cette page, n'est-ce pas, qu'il a reçu trois volumes de Mélange et les deux derniers, n'est-ce pas, donc à la fin de sa vie. Donc, les Mélanges linguistiques offerts à Émile Benveniste, donc qui, évidemment, ont été élaborés par la Société linguistique de Paris, donc par ce milieu nourricier de l'école pratique des hautes études, et puis l'autre volume de Mélange, Langue, discours, société, pour Émile Bavénis, qui vient donc de l'autre, enfin, on pourrait dire de l'autre bord, c'est-à-dire des sémioticiens, mais pas seulement. On trouve donc dans le volume Langue, discours, société, Marcel Bataillon, Claude Divistro, Jean-Pierre Bernand, Pierre Vidal-Naquet, Roland Barthes, Christian Merz, Zeban Todorov, outre donc les éditeurs. Mais j'observe que parmi les linguistes, en plus des trois éditeurs, on trouve trois noms qui sont communs avec le premier volume. Il me semble très significatif. Roman Jakobson, Hans Jakob Seiler, qui est un spécialiste de typologie linguistique, et Calvert Watkins, dont j'ai déjà parlé. Par conséquent, ce second volume de Mélange confirme qu'il n'y a qu'un seul bavéniste, bien qu'il ait une pluralité potentielle de lecteurs, dans la mesure où il peut stimuler la réflexion des non-linguistes autant que des linguistes. Donc, c'est le cas, justement, n'est-ce pas, avec sa doctrine majeure, n'est-ce pas, bon, une de ses doctrines majeures, mais c'est la notion de discours. Donc là, il me reste, je crois, très peu de temps, mais il y a là, disons, d'ailleurs, un certain nombre d'articles très connus, n'est-ce pas, d'ailleurs, que vous avez mentionnés, donc l'article sur la nature des pronoms, l'article sur la structure des relations de personnes dans le verbe, l'article et l'article de la subjectivité dans le langage. Donc, d'ailleurs, si vous voulez, une tête de chapitre comme l'homme dans la langue, vous voyez, résume, disons, un point de vue qui est devenu pratiquement, disons, obsessionnel, si vous voulez, dans la pensée de Benveniste. Bon, qu'est-ce que le discours ? Eh bien, le discours, c'est la prise en charge de la langue par un sujet parlant dans une situation à chaque fois différente. Et Benveniste, grâce à ce concept, déplace l'opposition saussurienne entre langue et parole. Donc, les papiers de Saussure qui ont été publiés récemment montrent qu'en réalité, Saussure n'excluait pas la parole du champ de description, n'est-ce pas, qui s'offrait aux linguistes. Mais, disons, jusqu'à la découverte de ces papiers, à travers le cours de linguistique générale, on pouvait croire que l'objet unique de la linguistique, c'était la langue en elle-même et pour elle-même. Donc, Benveniste déplace cette opposition, mais en réalité, il est en accord parfait avec Ferdinand de Saussure. Et donc, dans le discours, n'est-ce pas, il y a un certain nombre de marques formelles, et ces marques formelles donc, laissent une trace dans la langue. Ces traces, eh bien, ce sont un certain nombre de morphèmes, comme donc, les pronoms démonstratifs, les pronoms personnels, les temps verbaux, etc., n'est-ce pas ? Donc, il y a des marques formelles qui sont l'objet de la description linguistique, n'est-ce pas ? Qu'on ne peut pas renvoyer simplement donc, à l'individualité indéfinie des locuteurs. Donc, à cela se rattache évidemment la théorie de Benveniste sur les verbes performatifs et sur les verbes délocutifs. Donc, les verbes performatifs, c'est un concept qu'il a repris et modifié, n'est-ce pas, à la philosophie analytique du langage ordinaire, mais il l'a réinterprété, disons, dans un cadre strictement linguistique. Et alors, il y a évidemment, là, je voudrais citer quand même, je ne peux pas vous laisser sans citer ces phrases. C'est dans l'instance du discours où je désigne le locuteur que celui-ci s'énonce comme sujet. Il est donc vrai à la lettre que le fondement de la subjectivité est dans l'exercice de la langue. Si l'on veut bien y réfléchir, on verra qu'il n'y a pas d'autre témoignage objectif de l'identité du sujet que celle qu'il se donne ainsi à lui-même. Être un sujet parlant, c'est uniquement avoir la possibilité de dire « je ». La subjectivité est assignée par le fonctionnement même du discours, elle est une structure qui dépend exclusivement du langage. Le mot « je » est une réalité de discours et le moyen pour l'individu de s'approprier le langage entier et de s'énoncer comme locuteur. Donc l'auteur nous conduit donc au seuil d'un questionnement philosophique, mais il y apporte toujours une réponse de linguiste. Alors ce dernier benveniste, je dirais, qui a aussi d'autres phrases que je vais citer, n'est-ce pas ? Avant toute chose, le langage signifie, tel est son caractère primordial, sa vocation originelle, pardon, qui transcende et explique toutes les fonctions qu'il assure dans le milieu humain. Bien avant de servir à communiquer, le langage sert à vivre. Si nous posons qu'à défaut de langage, il n'y aurait ni possibilité de société, ni possibilité d'humanité, c'est bien parce que le propre du langage est d'abord de signifier. C'est ce qu'il a dit dans une conférence de 1966 au 13e congrès des sociétés de philosophie dans la langue française. Nous n'atteignons jamais l'homme séparé du langage. C'est un homme parlant que nous trouvons dans le monde, un homme parlant à un autre homme, et le langage enseigne la définition même de l'homme. Il est évident que ces assertions des échos philosophiques, malgré la réserve constante de leur auteur, on pense évidemment à Martin Buber, Franz Rosenzweig, Emmanuel Levinas. Dans plus d'un passage, la démarche de Benveniste pourrait aboutir à une métaphysique du langage. De fait, elle a suscité chez nombre de collègues une sorte d'admiration, mais aussi chez beaucoup d'autres, des réactions bien plus réservées par réaction contre une forme d'idéalisme. En fait, rien n'est plus éloigné de l'esprit benvénitien que la sacralisation du langage, comme le montre sa remise en cause répétée des étymologies tenues pour évidentes et sa déconstruction du rapport prétendument naturel entre la langue et le monde, qui est justement la croyance spontanée du sujet parlant. Donc il resterait, c'est certain, à identifier plus précisément les sources philosophiques de la pensée benveniste, mais ce serait une erreur totale de voir dans sa dernière pensée l'application au langage du doctrine philosophique. Benveniste reste constamment un linguiste. Il est même l'archétype du linguiste. Mais peut-être sans le savoir, et justement par cette investigation au cœur de l'action du sujet parlant, puisque l'homme agit dans le discours, eh bien, il est devenu, d'une certaine façon, un prophète. Je vous remercie.